France Inter.
La caractéristique idéologique de ces phénomènes stylistiques, c'est l'espoir. L'espoir de l'avenir. En Italie, c'est une caractéristique de la révolution culturelle marxiste après la résistance. Cet espoir justifie un certain amour inconditionnel pour l'homme moyen, l'homme moyen italien.
Pourquoi est mort Pier Paolo Pasolini ? Comment est mort Pier Paolo Pasolini ? Aujourd'hui encore, plusieurs thèses s'affrontent, et ce qui est sûr, c'est que sa mort jette, à tort ou à raison, une lumière particulière sur la totalité de son œuvre. Aujourd'hui, quatrième et dernier épisode de notre série spéciale intitulée « Pasolini, la rage d'exister dans l'heure bleue », ce soir, notre invité est Hervé Joubert-Laurencin, chercheur, professeur en études cinématographiques, qui publie en mai prochain « Le grand chant Pasolini, poète et cinéaste », une énorme somme de 500 pages, et c'est lui qui présentera la rétrospective consacrée à l'œuvre cinématographique de Pasolini au Festival de cinéma de La Rochelle à partir du 1er juillet prochain. Puis, vous entendrez la lecture d'Arthur Teboul, le chanteur des Feux Chatterton, ce soir, des notes choisies dans Pétrole. Pétrole, c'est cette œuvre publiée après la mort de Pier Paolo Pasolini, une œuvre extraordinaire, prophétique, visionnaire et fragmentaire. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Lamento per la morte de Giovanna Marini. Sortez vos mouchoirs.
Persi le forze mie, persi l'ingegno.
Lamento per la morte di Pasolini.
E la morte m'ha venuta a visitare. E leva le gambe tue da questo regno. Persi le forze mie, persi l'ingegno.
Dici la morte che l'ho visto. Vidi in faccia la mia gioventù. Oh Cristo, me l'hai fatto un bel disgusto. Undici le volte che l'ho visto. Undici un quarto mi sento ferito. Davanti agli occhi ho le mani spezzate. E la lingua mi diceva andare, andare. Undici un quarto mi sento ferito. E mezzo mi sento morire. La lingua mi cercava le parole. E tutto mi diceva che non giova. L'undici e mezzo mi sento morire. Mezzanotte mo da confessare. Cerco perdono dalla madre mia. E questo è un dovere che ho da fare. Ma quella notte volevo parlare. Ma piange quando là vuole scappare. Solo morire lì vicino al mare. Ma quella notte volevo parlare. E non può, non può, può più parlare, può più.
Oh!
Ma io penso che nessun artista in nessuna società è libero.
Mais je pense qu'un artiste n'est libre dans aucune société.
Un artista è comunque
parce que par lui-même
una contestazione vivente.
Il est une contestation vivante.
Ho fatto esperienza di questo.
J'en ai fait une expérience un peu particulière. On sait que la bourgeoisie est prompte à récupérer ces contestations vivantes que sont les poètes, écrivains, etc. Pour autant qu'ils sont des individus problématiques. En France, par exemple, même le scandale est étiqueté, assimilé par la grande bourgeoisie. Vous voyez Genet, par exemple.
Quatrième et dernière émission avec vous, Hervé Joubert-Laurencin. Je rappelle que vous êtes un spécialiste de Pier Paolo Pasolini depuis longtemps et que vous sortez en ce moment même une énorme somme de plus de 500 pages sur Pasolini intitulée Le Grand Chant, Pier Paolo Pasolini, poète et cinéaste. La mort de Pasolini a fait considérer Pasolini comme autre qu'il n'a été, c'est-à-dire à la fois un artiste, un poète, un cinéaste, un dramaturge, un critique, etc. Pourquoi cette mort a-t-elle figé en personnage Pasolini ?
Parce que cette mort est restée mystérieuse. Je commence, disons, l'aspect biographique du livre dont vous avez parlé, par le côté, c'est-à-dire par la mort, mais pas seulement la mort de Pier Paolo, mais la mort de trois enfants. Parce qu'au fond, il y a comme une espèce de fatalité terrifiante, non pas sur Pier Paolo Pasolini, mais sur sa mère, Susanna. Susanna Pasolini, qui avait épousé un militaire, au fond, et puis qui n'a pas été heureuse en amour. Mais elle a été heureuse avec son fils. Parce que Pier Paolo et elle ont été dans une communion permanente jusqu'à la fin.
Pier Paolo Pasolini, qui a vécu avec sa mère jusqu'à son dernier jour.
Oui, c'est vrai. Non sans voyager beaucoup, non sans sortir beaucoup la nuit, non sans avoir beaucoup d'amants, non sans avoir une vie tout à fait anormale à son époque, enfin très anticonformiste, mais dans un amour total avec sa mère. Et moi, je déplace le sujet sur sa mère parce que en fait, c'est sa mère qui a été une victime d'une tragédie terrifiante, finalement beaucoup pire que lui, puisque elle a perdu un enfant en bas âge, alors qu'elle était encore fiancée avec son mari. Les fiançailles avaient duré longtemps, et du coup, il a été caché à la famille, parce qu'il se trouvait loin de la famille. Donc, Pier Paolo n'a jamais su qu'il n'était pas le premier enfant. Puis ensuite, elle a eu Pier Paolo, puis Guido, et Guido est parti au maquis très jeune, et il a été tué dans le maquis, donc pendant la guerre, mais son corps est revenu tardivement, c'était une horreur, parce qu'au lieu d'être tué par des nazis ou par des fascistes, ou par ce qu'on appelait l'armée nazi-fasciste, justement, au moment de Salo, précisément, ce qui fait l'objet du dernier film de Pasolini, pas par hasard non plus, en fait, il a été tué par des communistes, il a été tué par des partisans. Donc ça a provoqué des choses terribles dans la pensée de Pasolini aussi, qui lui était le plus vieux, mais n'avait pas pris le maquis physiquement, tout en étant antifasciste, en grandissant en quelque sorte, puisqu'il est né avec le fascisme. Donc la deuxième mort n'était pas claire non plus, très obscure au fond. On ne savait pas d'abord qui l'avait tué, puis c'est une mort violente. Et enfin, Pier Paolo a été tué en 75. On sait à peu près par qui, peut-être. Aujourd'hui, on en sait beaucoup plus qu'à l'époque de son assassinat, mais on ne sait toujours pas ce qu'on appelle en Italie le mandant, c'est-à-dire qui a provoqué, qui a poussé plusieurs personnes, parce qu'aujourd'hui, il faut être très hypocrite pour essayer de penser que Pasolini a été tué par une personne ou par hasard. On sait à peu près pertinemment depuis maintenant quelques années que l'assassinat a été fabriqué, que plusieurs personnes ont tué Pasolini. Tout ce qu'on ne sait pas, c'est qui l'a fait et quel est le mobile. Quant à son œuvre, évidemment, cette mort terrible et donc tragique, qui prend la suite de cette tragédie qu'a vécu sa mère, au fond, moi, je trouve. Elle a complètement transformé son œuvre, parce que c'est une œuvre joyeuse, c'est une œuvre belle, qui n'est pas du tout mortifère, qui sait ce que c'est que la mort, mais savoir ce que c'est que la mort, ça n'est pas vouloir la mort. Ça n'est pas aimer la mort. Ceux qui aiment la mort sont les fascistes. Hein. Je crois que Viva la Muerte, c'était les franquistes. Donc Pasolini, c'est le contraire. C'est un antifasciste. Et donc on n'aime pas la mort quand on déteste le fascisme, quand on déteste la violence, quand on est homosexuel. Donc Pasolini a eu une relation au monde au fond très à la fois malheureuse et heureuse, mais très heureuse l'expression dans son œuvre. Son œuvre est totalement vital. Enfin, la vitalité d'ailleurs est un mot très important chez lui. et une réalité très importante de son œuvre. Donc la mort qui s'est collée à lui, à son souvenir, à cause du scandale énorme de cet assassinat par un jeune garçon, la nuit transformée, je dirais, maquillée en crime sexuel sordide. On est persuadé aujourd'hui, si on est raisonnable, que toute cette mise en scène a été une mise en scène. Donc c'est une mise en scène d'un homosexuel riche qui se payerait un jeune garçon, qui abuserait de lui et puis qui se ferait tuer. Et tout ça a été fabriqué par ces assassins. Donc on attend de savoir
maintenant... On ne peut pas dire le contraire, mais la justice n'a pas non plus élucidé...
Non, la justice a très mal travaillé.
...les causes de la meurtre de Pierre Paolo Pasolini. Non, et vous dites...
La police a mal travaillé au début, la justice ensuite a mal travaillé, et puis elle a rouvert le dossier plusieurs fois sans arriver à le rouvrir véritablement.
De quoi Pelosi est-il le nom? C'est ce que vous dites à l'intérieur de votre ouvrage, Hervé Joubert-Laurencin, c'était le nom de l'assassin, enfin de celui qui a été inculpé, puis emprisonné, puis relâché, qui était l'assassin de Pier Paolo Pasolini. Mais les histoires de cette mort sont extrêmement compliquées, elles sont très passionnantes encore aujourd'hui en 2022. C'est ce que vous nous expliquez, car il y a 3 scénarios à la mort de Pier Paolo Pasolini. Le premier scénario, il est intellectuel. Pourquoi ?
Alors c'est un scénario peut-être absurde, mais après tout l'absurdité n'est pas inimaginable dans ce genre d'affaires. Hein. C'est vraiment un cas Pasolini, comme le caso Mattei, il y a le caso Pasolini, c'est-à-dire un de ces meurtres, un de ces multiples meurtres sanglants, abominables d'Italie qui n'ont jamais été élucidés. Donc l'intellectuel, ce serait l'écriture de son roman Pétrole. Hein. C'est une chose qui a été beaucoup documentée ces dernières années, avec plus ou moins de vraisemblance ou d'exagération. Et bon, on ne sait pas. Mais il est tout à fait possible que les relations très précises de ces personnages avec la grande industrie du pétrole, d'où le titre, enfin l'un des 3 titres possibles de son roman inachevé, qui était immense, hein, il prétendait le finir en 2000 pages, il en était déjà à près de 600 pages. C'est un magnifique roman, c'est un des plus beaux romans inachevés du XXe siècle, vraiment. Moi je le trouve labyrinthique, extraordinaire. Du coup c'est dommage d'en faire seulement une explication de sa mort. Mais pourquoi pas ? Peut-être que des gens dans l'industrie ont eu peur de voir leur nom à l'intérieur dénoncé comme...
Mais parce qu'on dit que 60 pages de pétrole avait été subtilisé. Alors, du manuscrit.
Voilà, les pages subtilisées, moi je suis pas du tout sûr que ce soit la bonne raison, mais puisque personne n'a prouvé qu'elles avaient été volées et qu'elles étaient remplies, elles pourraient être tout à fait blanches. Moi je serais plutôt dans cette affaire, je serais plutôt sur l'hypothèse du rapport avec de son amour pour Stern, parce que ça ressemble à l'humour de Stern de mettre une page blanche et de laisser la page blanche et de faire du méta-textuel comme ça, c'est-à-dire le roman qui est en train de se faire sous les yeux du lecteur. Et le fait que le roman était prévu pour être inachevé, il était prévu pour être publié par Pasolini sous forme de notes d'un roman qui ne serait pas terminé. Le problème, c'est un problème majeur de la littérature et de l'explication de l'œuvre et même de la vie de Pasolini, c'est qu'il a été assassiné précisément, donc on n'a pas le bon inachèvement. Alors que l'inachèvement était prévu et c'est lisible à toutes les pages. Et c'est totalement passionnant dans la lecture du livre de voir cet inachèvement prévu par l'auteur. Mais celui qui est imprévu, c'est qu'on l'a tué et que alors personne ne sait ce qu'il aurait gardé à la fin, comment il aurait fabriqué ce livre avec des pages blanches, avec des renvois. Et donc oui, c'est une possibilité qu'on ne peut pas écarter. Peut-être que le roi du pétrole, et qui peut-être bien a fait tuer Mattei pour prendre sa place, et qui peut-être bien dirigeait la loge P2, ça fait beaucoup quand même. Pourquoi pas ? Pourquoi ce serait pas le mandant ? Bon voilà, c'est une des hypothèses imaginables.
L'autre scénario, dites-vous, Hervé Joubert-Laurencin, il est politique.
Alors, elle est politique, mais elle est déjà politique avec le pétrole. Parce que le pétrole est totalement une hypothèse politique. Il pourrait y avoir une hypothèse politique sans la grande industrie mêlée à la mafia, mêlée aux services secrets, mêlée au début du terrorisme d'extrême droite et d'extrême gauche, mais en l'occurrence d'extrême droite, qui a pu servir, puisque des jeunes gens ont probablement, des espèces de barbares ont probablement été utilisés dans le meurtre de Pasolini, et eux étaient plutôt liés à l'extrême droite.
Les circonstances de la mort de Pier Paolo Pasolini sont absolument atroces.
Oui, c'est atroce, mais c'est la barbarie habituelle, soit de guerre, soit militaire, soit policière, des bandits, c'est-à-dire tuer à main nue. Voilà, c'est quand on tue quelqu'un à main nue, c'est pas beau à voir. Il a été tué à main nue, avec un bâton et roulé, et avec une voiture qu'il a écrasée. Le politique, ce serait que Pasolini a fait des déclarations dans la presse qui disaient « je vais dénoncer tout le monde », hein, mais c'était métaphorique. Tout le monde savait. Tous ceux qui savent lire avaient bien entendu « je sais les noms », c'est le fameux article « je sais les noms, je vais dire les noms, mais je sais les noms, mais je n'ai pas les preuves hein, ». Donc je ne vais pas donner les noms. C'était une façon de dire « je sais les noms, mais je n'ai pas les noms ». Donc c'est un effet de rhétorique qui a pu, pourquoi pas, enflammer des gens, effectivement. Donc ça peut être politique, oui.
Il était gênant, Pasolini ?
Toujours, oui, il a toujours été gênant. C'était une espèce de voix sans parti. Mais c'était une voix absolument dissidente, quel que soit l'endroit où il se trouvait. C'est-à-dire que Pasolini a une façon d'être, disons politiquement, une façon d'être qui est d'investir un lieu. Et lorsqu'il est dans ce lieu, il y est si profondément qu'il est plus saint que les saints, si vous voulez. C'est cette façon d'être hérétique. Enfin, il a utilisé cet adjectif parfois par un des multiples éléments d'autoportrait en hérétique. Et l'hérétique, c'est pas celui qui est en dehors tout d'abord, c'est celui qui est en plein milieu. C'est celui qui creuse en spirale le fond de la religion elle-même. Donc, qu'il soit dans le parti communiste ou qu'il soit dans le gauchisme ou qu'il soit dans le catholicisme romain ou qu'il soit dans la littérature, partout, il a cette attitude d'être tellement à l'intérieur et tellement parfait en quelque sorte que ça devient intenable pour les gens qui ont l'habitude de rester à un endroit. Et pour rester à un endroit, ben, ils doivent s'accoutumer. On doit accommoder les choses pour être dans un parti, pas forcément un parti politique, mais d'être d'un parti ou d'un côté. Pasolini ne s'accorde jamais. C'est un mur. Voilà. C'est un mur sur lequel on se bute. Ça fait partie des gens que j'aime beaucoup dans la vie. Il y a très peu de gens qu'on rencontre comme ça, qui sont des espèces de murs sur lesquels, de toute façon, tous les lâches viennent se cracher, disons.
Troisième hypothèse que vous soulignez dans votre ouvrage, l'hypothèse mafieuse.
Oui, pourquoi pas. Il y a une hypothèse un peu moins évidente, mais que j'ai trouvée dans un récit qui a été fait par une journaliste, une petite journaliste, mais qui était locale dans le lieu où ça s'est passé et qui parlait avec les gens, qui finalement dit pas mal de choses dans son livre qui est assez méconnu. Il y avait la bande de la Maliana, donc il y avait une bande organisée, semi-mafieuse. Et puis, il y a eu une altercation avec des macros. Et Pasolini aurait défendu des prostituées masculins. Et puis il aurait peut-être aussi couché avec un fils d'un capo mafia, c'est-à-dire avec un dirigeant de la mafia, et alors ce serait une chose à punir. Alors peut-être, qui sait ? Peut-être que il a été visé par un groupe mafieux ou un groupe, en tout cas criminel, de criminalité organisée, qui a voulu punir une espèce de chevalier blanc qui vient défendre des prostituées ou qui vient semer la zizanie à un endroit où mettre son nez là où il ne faut pas. Voilà. Donc c'est une possibilité également. Oui.
Il ne faut pas figer l'œuvre de Pier Paolo Pasolini à l'intérieur de cet assassinat sauvage. Mais cependant, il y a quelque chose de troublant quand on lit les textes et quand on lit les ouvrages tels que les vôtres, Hervé Joubert-Laurencin, c'est que cet homme qui a toujours flirté avec la transgression, qui a toujours aimé le danger, qui a toujours assumé toutes ses radicalités, vivait aussi jusqu'à l'impossible. Et en quelque sorte, la légende a rejoint tout le travail de toute sa vie, même si cette vie s'est arrêtée très brutalement à l'âge de 53 ans.
C'est difficile parce qu'il y a plusieurs choses différentes. Il y a son œuvre, il y a sa vie telle qu'on peut s'imaginer sa vie, et surtout sa vie telle qu'on peut la fantasmer. Donc il y a un grand problème, c'est le fantasme qu'on peut avoir d'un Pasolini qui en fait n'a jamais existé, parce que quand on rencontre les gens qui l'ont connu, ils ont surtout ressenti sa douceur, sa voix douce, sa joie de vivre, et également sa douleur de vivre, bien sûr, mais pas du tout cette force active d'attaque qu'il pouvait y avoir dans ses mots quand il était polémiste, parce que Pasolini est un journaliste génial. C'est quelqu'un qui intervient dans les faits de société avec une acuité formidable, parce qu'il le fait avec lui-même, avec sa propre vie, sa propre expérience, avec son corps. C'est quelque chose d'extrêmement rare au fond. Et cette véhémence n'avait, semble-t-il, à peu près pas grand-chose à voir, à peu près rien à voir avec sa propre personnalité. Donc, je m'inscris totalement en faux sur l'idée qui est parfois répandue et que je trouve assez ignoble, de penser que Pasolini a préparé sa mort ou est responsable de sa mort, ce qui est quand même totalement scandaleux quand on pense qu'il a été assassiné. C'est énorme. Et quand on sait maintenant que son assassinat a été tellement préparé, ça fait partie de cette construction de qui consistait à salir celui qui a été assassiné pour pouvoir effacer les traces, comme on le fait très classiquement dans les assassinats mafieux. Et donc c'est assez terrifiant, parce que c'est un retournement total par rapport à son œuvre qui est d'une grande clarté. Et le rapport à la mort de son œuvre, c'est encore une autre question, et infiniment plus baroque, plus subtil, plus intéressant que cette espèce de scénario, disons, d'un homophobe d'extrême droite qui imagine ce que c'est qu'un homosexuel avec un jeune garçon, et puis qui invente une espèce de scénario pour qu'on trouve que c'est vraiment dégoûtant ce qui s'est passé, et qu'on accuse plutôt la victime que l'assassin ou les assassins. On en revient à la première question, c'est-à-dire qu'effectivement sa mort est très trompeuse par rapport à tout ce qu'il a créé, qui est tout à fait lumineux, vital et extraordinaire, et c'est vraiment ce que je veux retenir l'année des 100 ans de sa naissance, quoi. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a comme une nouvelle naissance pour moi, parce que je dois dire que j'en avais assez des années en 5 où on ne peut parler que de sa mort, alors que là on est dans une année qui marque les 100 ans d'une naissance, et c'est très beau. C'est très beau de le voir naître en 1922 et de le voir renaître aujourd'hui, et toujours jeune au fond.
De nombreuses publications existent en ce moment même pour essayer de comprendre le côté vaste, immense, surexcité de la production dans tous ses registres, que ça soit le cinéma, la poésie, la littérature, la critique, l'art, la dramaturgie, et j'en oublie, car Pier Paolo Pasolini était un excité du travail, un surexcité aussi de la création, puisqu'il produisait jour et nuit. Que retiendriez-vous aujourd'hui, en 2022, de Pier Paolo Pasolini ?
Moi, j'aime le cinéaste qui est un vrai cinéaste, et ce que j'aime dans son cinéma, c'est qu'il est complètement impur, c'est-à-dire qu'il est intégralement traversé par un élan poétique et littéraire, ce qui est très très rare au fond chez les cinéastes. Ce n'est pas ni un jeu de mots ni un cliché de dire que c'est un poète en cinéma. Et ça, c'est très extrêmement rare. Donc, certains de ces films atteignent des sommets. Tous sont pas pareils, mais il a atteint des sommets dans certains de ses films qui sont extraordinaires et qui sont de l'ordre de la poésie, et qui ne pourraient pas être sans cette espèce d'immense culture littéraire qui traverse ces images.
C'était un artiste de son temps, vous le rappelez, et pourtant vous le classez plutôt du côté de Michel-Ange ou de Dante. Pourquoi ?
Plutôt Dante, oui, plutôt le Moyen-Âge. C'est quelqu'un qui, par exemple, dans ses références, saute par-dessus la Renaissance, l'invention de la perspective, quoi. C'est-à-dire, ce qui l'intéresse, c'est le Trecento ou le Cinquecento. Soit c'est les maniéristes, soit c'est vraiment le haut Moyen-Âge. À beaucoup d'égards, il a une relation il a une façon de raconter des histoires, une façon de fabriquer des images qui est très propre à la grande pensée, à la grande création médiévale, aux églises romanes, aux créateurs comme Dante, oui, ou comme Boccace, hein, qu'il a adapté.
Je vous propose d'écouter un document. Ce document, c'est le dernier entretien qu'a accordé Pier Paolo Pasolini. C'était lors de sa venue en France, où il préparait la sortie de Salò, et c'était au micro de Philippe Bouvard.
Pier Paolo Pasolini, vous avez été un pionnier du cinéma. Est-ce que vous vous sentez dépassé aujourd'hui par la vague du cinéma érotique et pornographique ?
Si, mi sento superato.
Oui, je me sens dépassé.
A questo punto mi sento addirittura di abiurare dalla mia trilogia della vita, cioè dal Decameron fino alle Mille Une Nuits.
Oui, j'ai l'impression que je suis obligé d'abjurer la trilogie de la vie que j'ai faite, c'est-à-dire le Decameron, Canterbury et les Mille Une Nuits.
Vous pensez que les cinéastes ont été trop loin ?
Non, cinéastes, direi di no. Forse
non, les cinéastes, non. Les producteurs, peut-être. Les producteurs des films porno.
Est-ce que vous allez être, quand votre dernier film va sortir, il s'intitule « Les 120 jours de Sodome », une fois de plus celui par lequel le scandale arrive ?
Je pense que scandaliser, c'est un droit. Être scandalisé, c'est un plaisir. Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste.
Le sexe est-il politique ?
Naturellement.
Bien entendu.
Et la scatologie ?
La scatologie également. Il n'y a rien qui ne soit politique.
Le cannibalisme.
Dans certains milieux, c'est un fait politique réel. Dans d'autres milieux, c'est un fait politique métaphorique.
Vous pensez que c'est la meilleure façon de se débarrasser de ses ennemis politiques ?
Voyez-vous, j'ai fait ces jours-ci deux propositions modestes à la façon de Swift. J'ai proposé de dévorer les professeurs et les dirigeants de la télévision italienne.
Ce sont quand même des coriaces.
Nous avons d'excellents estomacs.
Avez-vous toujours la même haine des bourgeois et de la bourgoisie ?
Il ne s'agit pas de haine. Il s'agit de quelque chose de plus et de moins en même temps. Malheureusement, à ce point, je dois renoncer à cette espèce de haine, parce qu'en Italie, tous les gens sont devenus des bourgeois.
Et quand ce sont les bourgeois qui font le succès d'un de vos films, est-ce que ça vous attriste ?
Il n'arrive jamais que ce soit des bourgeois à décréter le succès d'un film. Ce sont les élites bourgeoises, celles auxquelles j'appartiens, et la masse du public. C'est la masse du public.
Pourquoi ne militez-vous plus aujourd'hui ?
Comment l'entendez-vous ?
Vous n'êtes plus un militant politique.
Je le suis plus que jamais. Je n'ai jamais été inscrit à un parti, je suis un indépendant de gauche marxiste, mais je continue à militer plus que jamais.
Est-ce que vous avez parfois la nostalgie de l'époque où les gens vous insultaient dans la rue ?
On m'insulte encore aujourd'hui.
Et ça vous cause un certain plaisir ?
Je ne le refuse pas, parce que je ne suis pas un moralisateur.
Quelle est la qualification professionnelle que vous préférez ? Poète ? Romancier ? Dialoguiste, scénariste, acteur, critique ou metteur en scène.
Dans le passeport, j'écris simplement écrivain.
Pourquoi avez-vous entouré le tournage des 120 jours de Sodome d'un tel mystère ?
Ce mystère, parce que toutes les œuvres doivent naître dans le mystère. J'ai essayé de la défendre plus que les autres parce qu'il y avait des dangers immédiats. Plus lourd, mais rien de spécial.
Qu'est-ce que vous appelez des dangers immédiats ?
L'apparition d'un moraliste qui refuserait le plaisir d'être scandalisé.
Comment avez-vous recruté ces 100 jeunes gens et jeunes filles ?
En vérité, j'ai suivi le nombre magique, les nombres magiques de Sade, le nombre 4. Et les victimes sont en tout une vingtaine, non une centaine. Pour les choisir, comme pour les autres films, j'ai rencontré des milliers de gens et j'ai choisi celles qui me semblaient être les meilleures.
Ce sont des acteurs masochistes ?
Si je les ai choisis, ça veut dire qu'ils le sont.
Nous venons d'entendre le dernier entretien de Pier Paolo Pasolini. C'était au micro donc de Philippe Bouvard. C'était deux jours avant son assassinat. C'était lors de sa venue à Paris au moment de la projection de son dernier film intitulé « Salaud ».
Pas encore de la projection a eu lieu après sa mort, mais la voix de Philippe Bouvard a retenti dans le cinéma du Festival de Paris où on a montré Salaud pour la première fois dans le monde. Et c'est seulement en France qu'on a pu voir Salaud pendant un an, parce qu'il était interdit partout ailleurs, les intellectuels italiens venaient le voir à Paris. Je me souviens de Jean-Claude Guiguet, parce qu'il y avait des gens proches de Pasolini, comme Jean-Claude Biette, qui avait été son assistant, et Jean-Claude Guiguet, qui étaient des cinéastes très subtils français que j'aimais beaucoup, et des grands écrivains de cinéma. Et Jean-Claude Guiguet m'avait raconté qu'il était présent, et que quand la voix de Bouvard avait retenti, ça avait vraiment, avec sa vulgarité, ses questions terriblement vulgaires, et ça avait chauffé la salle terriblement, les gens avaient crié. Et ensuite, on avait mis Salaud. Et pour lui, il y avait quelque chose qui était d'une réussite totale, parce qu'au fond, ce que montrait Salaud, l'horreur que montrait Salaud, commençait déjà dans ce jeu de questions-réponses que je trouve tellement extraordinaire. Parce que d'un côté, on a des questions terriblement vulgaires qui pourraient faire venir des choses dégoûtantes. Elles sont faites pour ça. Et Pasolini répond avec une acuité, comme il disait de Roberto Longhi, comme une épée hors du fourreau. Quoi. C'est-à-dire, chaque mot est taillé dans la masse et d'une intelligence incroyable, et a derrière lui tout un background de pensée. C'est même étonnant de pouvoir dire des choses aussi énormes en si peu de mots, en répondant à ces questions-là. Je trouve ça extraordinaire.
Le blasphème, c'est toujours religieux. Vous savez, dans toutes les religions, il y a la bénédiction et la malédiction, sont la même chose. La prière et les blasphèmes sont la même chose. C'est la contradiction qui s'identifie dans un mal sentiment. Dans toutes les religions anciennes, il y a la mélange entre le blasphème et la prière.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez l'épisode numéro 4 de la série spéciale consacrée à Pier Paolo Pasolini, La rage d'exister. Maintenant, place à la lecture de notes choisies dans Pétrole, l'œuvre posthume publiée aux éditions Gallimard. Notre lecteur est toujours et encore, pour notre plus grand bonheur, Arthur Teboul, le chanteur de Feu Chatterton.
Note 11, le nouveau jour. Au bout d'un moment, quoique belles, les relations avec le cosmos sont de courte durée. Elles sont peu utiles, elles font perdre d'autres choses, le temps, le sommeil, etc., si rationnellement nécessaires. La sincérité du rapport avec le cosmos s'épuise vite. Elle tente à se transformer aussitôt en un acte dommage, en un recueillement obligé, dont l'homme essaie de se délivrer, réprimant hypocritement son impatience, comme un enfant de ses cours de catéchisme. Carlo reprit sa route, rentra chez lui, se déshabilla, se glissa dans son lit. Aussitôt, car c'était une norme impossible à transgresser, il prit dans sa main, serra dans son poing, son membre mou, encore un peu moite, de sa dernière éjaculation. Carlo ne se lavait pas le soir, et il commença à le manier, pour le faire bander. Au bout d'un moment, il y parvint, et il commença à se branler. Son imagination évoquait avec la ferveur qu'aurait un comte d'Authierry à se rappeler les instants d'une victoire, ce dont il venait de jouir durant la soirée. Mais il ne se contentait pas de l'évoquer. Il l'envisageait dans une répétition à venir, avec des variantes aussi exaltantes que faciles, dans l'imagination dépourvue de la résistance de la réalité. Mais il y avait aussi une pensée qui le torturait, la perte de la présence de Viola. Si bien que, peu à peu, l'imagination se fixa entièrement sur elle. En se masturbant, dans une longue éjaculation interrompue, Carlo pensait à ce qu'il aurait fait devant la gamine si elle n'avait pas été aussi imprévisiblement sauvée par son père, ce maigre homme sans vie, avec sa bicyclette et sa voix profonde de vieux maître du pot. Comme toujours, la masturbation causa en lui un sommeil soudain, aveugle, qui l'engloutit dans une gorge moussue, au moment même où son imagination traçait devant les yeux clos de Carlo des gestes qui dépassaient de loin toute possibilité réelle et que pourtant il était certain de finir par réaliser, fût-ce au prix de renoncements, d'angoisses et de dangers encourus. Tel était, et rien d'autre, le but de sa vie. Note 64. Cause concurrente du tableau clinique. Un bourgeois ne sait pas réellement apprécier une innocence qui ne soit pas celle qu'enseignent les livres de classe et dans le code non écrit de la société. Il éprouve même, pour l'innocence, une certaine répugnance de caractère raciste. Les devoirs, il les a inventés pour pouvoir condamner l'innocence qu'il ne connaît pas. D'autant plus que souvent, l'innocence est liée à la délinquance. Et si, donc, elle échappe à la culture, elle échappe aussi à la loi. Le bourgeois éprouve toujours devant l'innocence un sentiment d'épouvante et dans le meilleur des cas, la juge comme un produit inférieur de sa manière de vivre. Ne sachant ou ne voulant pas imaginer les termes de l'autre façon de vivre à laquelle il appartient. Ainsi, l'annexant à sa propre histoire, il peut s'en libérer, s'en laver les mains, lui échapper, rompre les ponts avec des lieux où elle est reléguée. Maintenant, puisque dans une vie, même quand elle n'est pas symbolique, tout est organisé selon un dessein de notre obscure volonté, tout cela devait être réservé à Carlo. Par exemple, il faisait de toute évidence partie du dessein de l'obscure volonté de Carlo que près de sa maison, au Parioli, à Vigna Clara ou à l'Olgiata, c'est-à-dire ad libitum du lecteur, il y eut une école, un lycée. Cette école, ce lycée, était depuis quelques années le théâtre d'une série d'attaques, d'occupations, de bagarres, etc. Ces jours derniers encore, il y eut une action punitive de fascistes contre les élèves démocrates qui manifestaient pour je ne sais quoi, certainement pour quelque excellente raison. En sortant de chez lui, Carlo, au moment où il ouvrait la portière de sa voiture, vit précisément un groupe de ces fascistes. Ou plutôt, il les entrevit. Ils apparurent au bout d'une rue et ils tournèrent aussitôt le dos, prenant une route parallèle à la précédente, presque en courant, saisi d'une agitation qui, quoi qu'elle puisse faiblir, apparaît toujours aux spectateurs exclus comme exaltante, bénie. Il vit pendant quelques instants ses visages. Le hasard voulut que les plus moches, les plus vulgaires, avec des cheveux longs, habillés, coiffés comme leurs ennemis de gauche, avec des visages italiens ronds et oblongs, où la faim et la conscience malheureuse se mêlaient hideusement, soient passés plus vite que les autres, ou soient restés dans l'ombre. Car, ce jour-là de novembre, resplendissait un soleil tropical. Ne restèrent pendant quelques instants que les plus beaux, presque isolés. La rapidité de l'action permet cette fulgurante schématisation, qui du reste est la vérité. Eux aussi, ils étaient italiens. De jeunes italiens de 17, 18, 19 ans. Et ils l'étaient d'une façon presque exagérée, calculée, de laboratoire. Ils n'étaient pas très grands, naturellement. Mais ils n'étaient pas non plus courts sur pattes ou rase-motte. Leur taille dépassait de peu la moyenne. Mais la dépassait de ce peu qui suffisait à les faire ressembler à de jeunes athlètes. Ils avaient les épaules carrées, spartiates. Et leurs pantalons qu'ils portaient très étroits aux hanches, mais larges au niveau des jambes, surtout en bas, avec un gros revers massif sur les souliers, accentuait cet air carré de jeunes gens élancés. Eux aussi, ils avaient les cheveux plutôt longs, mais comme une ancienne retenue empêchait qu'ils fussent hideusement tombants sur les épaules, comme ceux des putes, et désormais des jeunes sous-prolétaires de banlieue, ils s'arrêtaient au cou, noirs, ondulés, abondants, comme des herbes foisonnantes au printemps, aux racines épaisses et solides. Ils couraient, leurs poings serraient des barres ou des piquets sur lesquels étaient entortillées des toiles noires. On ne comprenait pas bien si c'était des drapeaux ou des armes. Cela faisait partie des mystères, ne fût-ce qu'élémentaires, de la guérilla urbaine. Dans leur course, leur virilité oubliée en tant que sexe et exaltée dans leur passion civique, indubitablement monstrueuse, se révélait presque impudiquement. Le pantalon était si adhérent au bassin que de leur sexe, on voyait tout, le membre et les testicules. Mais tout était écrasé dans un unique bloc mou à la forme mystérieuse qui gonflait de part et d'autre de la braguette. Comme si ce sexe ne devait pas prendre, se présenter sous sa forme animale usuelle, mais eût été un pur poids, une qualité, un attribut infiniment plus fonctionnel que sa fonction, très humble en définitive. Ils ignoraient tout cela. Non seulement ils étaient loin à ce moment-là d'une telle pensée, mais peut-être qu'ils n'y avaient jamais pensé et n'y penseraient jamais. Ils portaient ce poids massif de leur virilité, écrasé par l'étroitesse du pantalon, comme une menace obscure, quelque chose qui, alors, était en plus, mais qui était tout, qui était au centre de leur corps, et donc du monde dont ils voulaient être les maîtres. Les seins de Carlo, l'espace d'un instant, se durcirent, comme les plis d'une vache qu'on n'a pas traite depuis plusieurs jours. Il avait besoin de nourrir, un besoin impérieux, pressant, irrépressible, un besoin de nourrir jusqu'à se défaire de soi-même et mourir d'inanition, là, par terre, sur ce macadam abject. Eux, ces jeunes, descendus qui sait d'où sur la terre, parce qu'ils en avaient le droit, jusqu'à lui ôter la vie. Mais ce désir délirant des saints n'était rien en comparaison de celui de son bas-ventre, égal et contraire. Ici, c'était un autre besoin de ces jeunes maîtres qui devait être satisfait. Le besoin qu'ils avaient de leur côté, de donner et de mourir, même s'ils ne s'en rendaient pas du tout compte. Et ce qu'ils désiraient faire n'était que trouver un certain plaisir que seuls connaissaient. Que, par ailleurs, vouloir réaliser ce plaisir fut une domination aussi passagère que féroce, et que la conscience de tout cela ne fut pas plus consistante qu'un souffle de vent, cela ne diminuait, mais bien au contraire augmentait le besoin de se mettre à leur service, de les contenter, de les laisser faire, avec toute la brutalité privée d'affection qu'ils voulaient. C'était leur naturel insouciant, leur hâte, ce qui fascinait le plus, même si c'était de jeunes bourgeois. Du reste, même leur choix politique était insouciant, hâtif, naturel et tyrannique. Carlo les regardait comme des hiérophanies. D'où venaient-ils? Qu'est-ce qui avait conduit ces jeunes Italiens à être fascistes? Quelle série de circonstances? Et conclu en quel lieu? Les avaient ainsi ponctuellement conduits à apparaître sur cette route et dans une infinité d'autres. De quelle heuristique naissent leurs actes, qui semblaient si parfaitement organisés? En tout cas, une chose était certaine. Ils se présentaient comme des maîtres, et ils avaient pris les droits des maîtres. Ils ne posséderaient et ne féconderaient que s'ils le voulaient bien. Mais leur volonté était irrésistible, comme leur course. Elle ne pouvait être payée de retour.
Comme une ombre, comme un rêve. L'homme qui vient de la terre y retourne à la fin. Il gagne bien péniblement son pain. C'est un vase qu'on brise, c'est une herbe qui sèche, c'est une fleur qui fane comme une ombre, une brise. Il s'évapore vite comme un nuage, perd le nord au milieu du voyage. Il tombe comme le vent, s'élève comme la poussière, puis enfin disparaît comme une ombre, comme un rêve. L'homme qui vient, il s'est donné du mal pour se donner du bien. Il s'est donné du mal, il s'en est donné plein.
L'homme qui vient n'est au courant de rien.
c'est avec L'homme qui vient de Feu Chatterton et notre ami Arthur que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Arthur Teboul pour vos lectures des textes de Pasolini tout au long de cette semaine. Merci Hervé Joubert, Laurent Saint. Je rappelle que votre livre, qui fait plus de 500 pages, s'intitule « Le Grand Chant, Pasolini, poète et cinéaste », une somme exceptionnelle qui va paraître le 6 mai prochain aux éditions Macula. Merci à Teresa Crémisi, Anne-Violaine Houck, Louise Vigneault, Rebecca Zlotowski et René de Secati. Merci à vous d'avoir écouté cette série d'émissions. Tous les livres, et ils sont vraiment extraordinaires, de Pier Paolo Pasolini sont disponibles en livre de poche. Et replongez-vous pour votre petite rétrospective personnelle dans les œuvres cinématographiques de Pier Paolo Pasolini. Vous le pouvez, car tous les DVD sont disponibles. Retrouvez d'ailleurs les indications sur le site internet de L'Heure Bleue. Merci à Julien Michel qui est à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas et Marie Clément. Et merci bien sûr à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé magnifiquement cette série. Vous écoutez France Inter. Dans un instant, les émissions de la campagne officielle pour l'élection présidentielle.